Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bonjour à vous, bienvenue dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar. Et aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Alors, avant que tout le monde ne mange des crêpes, nous allons expliquer un peu ce qu'est la Chandeleur, parce que c'est une fête chrétienne. C'est en fait la fête de la vie religieuse des moines et des moniales. Donc, nous allons parler de 2-3 ordres religieux, et puis ensuite, l'évangile du jour sera d'expliquer en quoi consiste cette vie. C'est peut-être bien de commencer par là quand on parle de la vie religieuse. Des moines, et plus précisément des bénédictins, et plus précisément de saint Antoine le Grand, qui, du point de vue historique, a été le premier religieux. C'était quelqu'un qui vécut en Égypte, dans le temps de l'Empire romain, et qui, en écoutant l'évangile, décida de prendre au pied de la lettre une phrase « Va, prends tout ton argent, donne l'argent aux pauvres, viens, suis-moi ». Et donc saint Antoine se dépouille de tout, part dans le désert et consacre sa vie à la solitude et à la prière. Et ça, ça vous a donné les moines, les premiers religieux. Moines, ça vient du grec monos, qui veut dire seul. Parce que un des proverbes de la vie monastique consiste à dire être seul avec le seul. En France, ou plutôt en Europe, les moines, ce sont principalement ceux qui se réclament de saint Benoît. Saint Benoît, c'est celui qui a pris l'idéal de ce premier moine qu'on appelait saint Antoine, qu'il a transposé en Europe pour lui donner une règle de vie qu'on appelle la règle de vie de saint Benoît. Et ça, ça vous a donné les moines, les bénédictins, les cisterciens, etc. Deuxième type de moine, que d'ailleurs on n'appelle pas moine au sens technique, mais que l'on appelle des religieux. Par exemple, moi qui vous parle, je suis un religieux, c'est-à-dire une sous-catégorie de moine. En fait, moine, c'est 4 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, et il y a un quatrième vœu que l'on pourrait appeler de solitude, de retrait par rapport au monde, et qui techniquement s'appelle le vœu de stabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on promet de rester stable à un endroit donné, de ne pas bouger, retrait par rapport au monde. Donc ça, c'est les moines. Pauvreté, chasteté, obéissance, stabilité. Moi, qui suis religieux, j'ai fait le vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais je n'ai pas fait le vœu de stabilité. Je suis un religieux. Plus précisément, je suis un dominicain, et mon travail de moine, entre guillemets, c'est d'être moine prédicateur itinérant, et donc je parle de Dieu à gauche et à droite, ce qui explique pourquoi je n'ai pas fait vœu de stabilité. Alors, vous ferez attention, les religieux vivent dans des couvents. Et les moines, eux, vivent dans des abbayes. Je dis ça parce que parfois en France, on est persuadé que les abbayes, c'est pour les hommes et les couvents, c'est pour les femmes. Non. Les abbayes, c'est pour les moines et les moniales. Et les couvents, c'est pour les religieux ou les religieuses. D'ailleurs, en parlant des moines, des religieux, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des religieuses. Et c'est peut-être bien d'en parler 2 secondes. Parce que dans une époque où on est très attentif à l'égalité des sexes et où les personnes n'arrêtent pas de me demander « mais pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas devenir prêtres ?» n'oublions pas que normalement, il y a un endroit pour ça, si je puis dire, et c'est les couvents ou les abbayes pour devenir moniales, c'est le féminin de moine, ou religieuses. Et qu'en France, c'est un peu perdu ça. Mais si vous allez dans d'autres pays, par exemple, en Thaïlande, où j'étais pour faire de l'humanitaire, il y a énormément de religieuses, et les religieuses, là-bas, ça constitue un clergé féminin, mais un vrai clergé féminin. Puis je peux vous dire que ça rigole pas. Quand je vais là-bas, j'obéis et j'ai intérêt à obéir. Il y a des très très grandes saintes, celles que tout le monde connaît peut-être, Sainte Thérèse de Lisieux, ou bien encore ma préférée, Mère Teresa, qui s'occupait des mourants à Calcutta. Nous passons maintenant à l'évangile du jour, l'évangile de la Chandeleur, où l'on parlera de la consécration et de la vie religieuse. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, « Quand furent accomplis le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon tout ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la chandeleur. La chandeleur, vous reconnaissez le mot chandelle, qui veut dire lumière. C'est la fête de la lumière parce que la coutume consiste à aller à la messe et au cours de la messe, on donne un cierge que l'on allume en grande procession. En souvenir de Jésus qui était apporté enfant au temple pour être consacré à Dieu. C'est l'évangile que vous venez d'entendre. Ça vous vient d'une prescription de l'Ancien Testament qui disait que tout enfant premier-né devait être donné à Dieu. Et ensuite, d'une manière symbolique, on le rachetait en offrant à sa place un couple de tourterelles. Ce qui vous donne l'évangile d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très beau derrière qui consiste à dire que ce que l'on a de plus beau, c'est bien de rendre grâce en l'offrant à Dieu, qui en fait ne nous en prive pas, mais pour lui dire quand même que tout vient de Dieu et tout est à Dieu. Bon, donc ça vous a donné la chandeleur, et derrière la chandeleur, c'est ce qu'on appelle la fête de la vie religieuse. Donc si vous connaissez des moines, si vous connaissez des religieux, si vous connaissez des religieuses, ben vous leur souhaitez bonne fête, parce que c'est ça la chandeleur. En souvenir de Jésus qui avait été consacré à Dieu, ben on fête ceux qui ont consacré leur vie, corps et âme, à Dieu. Alors, les religieux, les religieuses, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. Je vous l'accorde, et j'étais non, si jamais je puis dire, mais je ne les donnerai pas, parce que ça se trouve, je suis dans la liste, et que je n'ai pas non plus perdu espoir de me réconcilier avec mes religieux et mes religieuses, qui parfois ont mauvais caractère. Mais derrière ça, qu'ils soient bon caractère ou qu'ils aient un mauvais caractère, n'oubliez jamais qu'il y a dans un prêtre, dans un religieux, dans une religieuse, il y a eu un moment de folie, mais de folie au sens de la vie amoureuse. Il y a eu un moment de folie où il ou elle a donné entièrement sa vie à Dieu. Et que ça, ça a été un des plus beaux jours de ma vie et que je ne cesse d'essayer de retrouver cet élan du cœur. C'est ce que l'on fait, c'est la consécration. Alors, on consacre tout ce que l'on a, on consacre son corps, ça vous a donné le vœu de chasteté, pas de relation sexuelle. On consacre son argent, vœu de pauvreté, qui se monnaie différemment selon les ordres religieux. Par exemple, les moines n'ont le droit de ne posséder rien en propre, mais tout appartient à l'abbaye. Pour moi, dominicain, c'est un peu différent, ça veut dire que je fais vœu de pauvreté à titre personnel. Par contre, pour l'apostolat, j'avoue que là, je claque pas mal d'argent. Ben là, en ce moment, j'ai des ordinateurs devant moi, etc. Donc là, c'est une pauvreté utilitaire où j'investis pour me donner les moyens de faire de la prédication. Vous avez encore les franciscains. Les franciscains, eux, ils sont censés vivre de la pauvreté, pauvreté, pauvreté. Bon, mais en tout cas, c'est le vœu de pauvreté. Chasteté, pauvreté et le dernier où l'on consacre son être intérieur, sa volonté propre. Et c'est le vœu d'obéissance. Alors c'est toujours la question que je posais au cathé. Parmi les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, à votre avis, lequel est le plus dur ? Eh ben, de manière propre, claire et nette, le plus dur, c'est le vœu d'obéissance. Le vœu de chasteté n'est pas facile. Mais bon, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des luttes, il y a des victoires, mais c'est pas ingérable. Le vœu de pauvreté est dur, mais on s'en sort, parce que l'Église veille sur vous et que je ne connais encore aucun prêtre, aucune religieuse, aucun religieux qui soit mort de faim. Parfois même, je me dis qu'on pourrait peut-être donner un peu plus d'argent aux pauvres, mais enfin ça me regarde. C'est un point de conversion personnelle, mais c'est quand même gérable. On n'a pas non plus des vies qui sont extraordinairement riches. Par contre, le vœu d'obéissance, c'est le seul vœu qui m'ait fait pleurer. Mais qui m'ait fait pleurer, pas une fois, hein, qui m'ait fait pleurer, mais parfois des mois entiers, tout seul, dans ma chambre, en train de me dire, mais cet ordre est complètement stupide, parce qu'évidemment, on peut jamais s'empêcher de trouver des ordres stupides, et pourtant, on a fait vœu d'obéissance, personne n'était venu me chercher, parfois je l'ai regretté, mais quand même, j'avais donné ma parole, et donc j'ai obéi. Eh ben, je vais vous dire une chose, à chaque fois que j'ai obéi, dans les larmes, mais quand même, j'ai obéi, c'est le moment où Dieu a fait des miracles. Mais vraiment, le moment dans ma vie où les miracles se sont mis à pleuvoir, c'est quand j'ai obéi à mes supérieurs. Et ça, oh là là, ça vous montre ce que c'est que la vie religieuse. La vie religieuse est une vie surnaturelle. La vie religieuse est une vie qui est incompréhensible à vue humaine et où vous avez donné à Dieu la part belle. Et Dieu, qui n'est pas chiche, ni de son temps, ni de ses faveurs, ni de ses miracles, vit avec vous. Vous n'êtes jamais seul. C'est une vie qui est extraordinaire. Oh ! Donc, oh, je pourrais continuer des heures et des heures, mais imiter Jésus, vivre avec Jésus, pleurer avec Jésus, obéir avec Jésus, donner sa vie avec Jésus, c'est la plus belle vie du monde. Donc, bonne fête aux prêtres, bonne fête aux religieux, bonne fête aux religieuses. Et si vous n'êtes ni prêtre, ni religieux, ni religieuse, eh ben, lâchez tout, si c'est possible, et rentrez dans un noviciat. Bonne fête tout le monde.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.